vue d'ensemble de l'actualité.
As-tu signé le pacte, Bernard?
Non, j'ai pas signé le pacte.
Je pense que là, il va falloir qu'aujourd'hui, tu me fasses une promesse et qu'au moins, tu vas aller le lire. Puis la semaine prochaine, si tu ne l'as pas signé, tu vas me dire pourquoi tu ne signes pas ça.
OK, parfait. Je vais t'expliquer ça la semaine prochaine, Dominique Champagne. Merci.
Dreville PM.
Eh bien, nous sommes rendus la semaine prochaine et il est devant moi, Dominique Champagne. Bonjour.
Bonjour.
Tu veux que je t'explique pourquoi je n'ai pas signé le pacte?
Allez.
Parce que dans le rôle que j'ai, notamment de chroniqueur politique le matin avec Paul, je ne peux pas me permettre de commencer à signer des pétitions. Parce que la fois où je vais critiquer la CAQ, mettons, pour ne pas en faire assez sur le plan environnemental, les gens vont dire « On sait bien, toi, Drainville, tu es déjà campé dans un camp. Tu es dans la gang à Champagne. » Fait que la CAQ, là, peu importe ce qu'ils feront en matière d'environnement, ça ne sera jamais assez. Tu es peinturé politiquement, tu es peinturé dans le coin. Et donc, si je veux me garder cette capacité de pouvoir critiquer tout le monde, je ne peux pas commencer à signer des pétitions. J'en ai signé aucune, d'ailleurs.
Je comprends.
À ma connaissance, en tout cas.
Je comprends.
C'est un bon argument, ça?
Je vais répondre à ça le plus honnêtement possible, avec mon cœur, avec ma ouais. raison. D'une ouais. part, le PAC, ce n'est pas une pétition. Le PAC, c'est un contrat. C'est un contrat où on dit « je m'engage, je prends acte de ce que la science nous dit et je m'engage à faire ma part ». Donc, on pétitionne pas, on dit, on signe un contrat.
Ouais.
Il vaut ce qu'il vaut, dans la mesure où un PAC, ça joue à deux, puis mais c'est quand même un engagement public, solennel, qui dit, ben, je prends acte de ce que la science nous dit, de l'urgence de la crise, de l'urgence climatique, de l'urgence de la situation, et je m'engage à poser un certain nombre de gestes.
Mais j'ai pas besoin de signer le pacte, Dominique,
sûr.
Pour en faire davantage
bien
sur
sûr,
ce plan-là.
Bien sûr, on est une société extrêmement individualiste et on n'est pas besoin nécessairement de s'allier,
non,
de
pas
se
ça.
Mettre ensemble pour pouvoir dire, avec la force du nombre, on pense qu'on peut y arriver.
Et t'es tordu!
Quelqu'un pourrait dire, je vais faire l'indépendance du Québec tout seul. Non. Mais il est plus probable qu'un geste... Je vais te prendre...
Du vrai sophisme,
non,
ce que tu viens
non,
de faire
c'est
là.
Pas c'est pas du sophisme. Je vais te donner un exemple. Je vais te parler de l'exemple d'un journaliste qui, un jour, a décidé, lui, non pas de signer une pétition, mais de signer un contrat avec les Forces armées canadiennes à l'époque. Il y a eu une situation si grave qu'il y a un gars qui s'appelle René Lévesque, apprenti journaliste, qui décide de s'engager comme journaliste
ouais.
dans l'armée des Alliés.
Oui, l'armée
il va
américaine.
Aller collaborer avec l'armée américaine parce qu'il juge que sa neutralité de journaliste mérite d'être brisée au nom de l'intérêt public, de la défense, de la démocratie, de la liberté
okay.
contre le fascisme hitlérien.
Fait qu'on est dans la même situation.
À
là.
Mes yeux, OK, on me dit souvent, bon, Champagne, c'est un gars de théâtre, il aime ça dramatiser. Moi, je pense sincèrement, Bernard... Je viens d'envoyer aux presque 300 000 signataires du pacte une sorte de
oui,
bilan.
Que j'ai lu, d'ailleurs.
De l'an 1,
oui.
où, par moment, là, par endroit, je suis obligé de faire le point sur ce que je sais. Je ne prétends pas avoir la vérité, mais je baigne beaucoup dans la littérature scientifique depuis un an. Je me fais fort de mettre
oui.
la science au cœur des déclarations que je peux faire, même si des fois, je pogne les nerfs et ça m'arrive de déraper. Et ce que la science me dit à moi, l'interprétation que je fais de ce que la bonne science nous raconte, c'est que la situation, elle est très grave
ouais.
et elle est mal relayé dans ce sens-là et par les médias, mais surtout par le pouvoir politique.
Mais je savais que tu allais me servir l'argument, cet argument-là, que tu allais me dire, dans le fond, la situation est tellement exceptionnelle qu'elle commande une éthique exceptionnelle. Et donc, Bernard, faut que tu dois manquer à l'obligation que tu t'es toi-même imposée de ne pas te peinturer dans le coin avec quelque cause que ce soit, parce que celle-là dépasse toutes les autres causes.
Que moi, je te
parce
dis,
que
Bernard,
cette cause-là, c'est la vie sur Terre.
Tu n'as pas à perdre ton esprit critique. Au contraire, je pense qu'il faut se défier les uns les autres pour s'assurer que les gestes qu'on va poser soient efficaces. Parce qu'il y a beaucoup d'écrans de fumée. On a beaucoup l'impression, tu sais, qu'on va arrêter d'utiliser les sacs de plastique puis les pailles de plastique, puis on va faire un meilleur usage du compostage. Puis ça nous donnait la liberté, surtout au pouvoir public, de dire on a fait notre part. La situation est grave et elle mérite des mesures
oui.
exceptionnelles.
Comme celle pour un journaliste commentateur comme moi de signer la pétition.
Je pense que oui. Moi, je pense qu'il y a un grand manque de leadership politique présentement. On aimerait ça que quelqu'un se lève, qui ne soit pas une jeune femme de 16 ans qui décide de faire la grève à l'école le vendredi après-midi, mais qu'un leader qui a du pouvoir présentement, qui est à la tête d'une nation, puisse se dire « Nous oui. allons prendre le taureau par les cornes » comme Churchill l'a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Dominique, moi, là, je suis pas aussi, comment dire, je suis pas prêt à aller aussi vite puis aussi loin que toi, là, mais je suis d'accord que je dois en faire plus. J'essaye d'en faire plus, comme beaucoup de gens qui nous écoutent. Mais c'est pas nécessaire pour moi, je pense, de signer cette pétition-là. Et je pense que ce serait contre-productif de le faire parce que ça risquerait justement de miner ma capacité d'être critique.
Je comprends.
Tu comprends? Mais parce que c'est ça que tu veux. Moi, ce que tu attends de moi, là, c'est que je sois critique des décideurs.
Bien sûr, hein? mais les signataires du pacte...
Pourquoi manquer à mon devoir d'impartialité en signant une pétition?
L'engagement du pacte, ce n'est pas un engagement à perdre son esprit critique. C'est un engagement
public. Non, je te parle d'impartialité.
Je vais faire ma part.
Dominique, je te parle d'impartialité. Je ne te parle pas de devoir critique. Je te parle d'impartialité. L'impartialité, c'est quoi? C'est la capacité de jauger des différents arguments en étant le plus juste possible et en n'étant pas parti soi-même au débat. Si je signe le pacte, je deviens parti, à mon avis, au débat.
Mais moi, je pense que la situation est à ce point critique. C'est comme si, là, je veux pas, c'est des gros mots ce que je vais dire, là, puis je suis pas en train, c'est pas une insulte que je te lance.
Non,
mais un jour, des Français, sous Pétain, décident qu'eux, ils vont être neutres. Ils vont laisser l'ennemi rentrer pour éviter qu'on casse trop de vie et, ouais, trop de matériel en France. On dit, on va collaborer avec l'ennemi. Oh, OK?
Ben, là, Dominique,
on dit, on va.
Tu me dis que c'est pas une insulte, mais c'est une maudite insulte.
Je te fais juste une analogie, OK? C'est-à-dire que tout à coup, devant une situation grave, tu peux décider soit d'agir en résistant, en entrant dans la résistance ou en fuyant le pays pour mieux revenir, comme De Gaulle l'a fait, par exemple. Excuse l'analogie, mais elle est assez, à mon avis, la situation est à ce point grave que devrait considérer aujourd'hui que nous sommes en guerre.
Là, t'es comme George Bush à la veille de la première guerre en Irak, de la deuxième guerre en Irak, celle après les attentats du 11 septembre, quand il avait dit, si je me rappelle bien, depuis
vous
le...
Êtes contre nous, ouais, vous
si
êtes
vous
avec
êtes...
nous.
Ouais, c'est ça. Si vous êtes pas, si vous êtes pas avec nous, vous êtes contre nous.
C'est pas ce que je dis. Comment, ce que je dis, c'est que la situation est à ce point grave pour qu'on s'allie. On devrait tous s'allier et passer par-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont toutes sortes de raisons.
Je ne peux pas passer par-dessus les règles d'éthique qui m'ont gouverné depuis que je suis journaliste.
OK, alors je vais te donner une autre façon de le voir, OK? Hier, il y a une étude qui nous dit...
Pourquoi tu ne me demandes pas, Bernard, qu'est-ce que tu fais de mieux ou de plus depuis que je t'ai poussé dans le dos, toi et beaucoup d'autres, avec mon pacte? Pourquoi tu ne me demandes pas...
Parce que je ne veux pas te faire porter à toi la responsabilité individuelle du sort du monde. Ben, je ne pense pas sincèrement, Bernard, que toi et moi, par les gestes individuels, on serait exemplaires, toi et moi, dans nos pratiques.
Non, mais je veux dire...
Ça ne changera pas la donne. La donne, elle doit être changée. Nous, on va se légitimer dans nos revendications face au pouvoir politique si on dit, plutôt que de strictement pointer les mauvais gouvernements ou la grande industrie du doigt, on dit, nous, on fait notre part.
Oui.
Mais on sait bien que la somme de nos gestes individuels et des impacts qu'on va avoir ne suffira pas. Mais pour légitimer notre revendication, on va dire, OK, nous, on fait notre part. On prend acte de ce que la science nous dit et on va se serrer la ceinture. On va modifier des comportements. Peut-être que je vais y aller moins souvent en Floride, OK, ou moins souvent en Europe. Moi, j'ai beaucoup voyagé.
Ça,
je m'impose ça.
Tu t'imposes ça, là. Tu ne prendras plus l'avion, toi, pour les prochaines années.
Je ne promets pas que je ne prendrai plus l'avion, mais l'aviation est un problème grave. Et il y a 10% de l'humanité qui prend l'avion. Et l'aviation, les émissions liées à l'aviation sont responsables de 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et il n'y a pas une scène de taxe qui est payée sur le pétrole qu'on met dans les vols internationaux.
Et alors, c'est ce que tu demandes, d'ailleurs.
Bien là, moi, ce que je dis, c'est que si on demande à nos gouvernements de faire ça, peut-être que comme individu, on peut dire, regarde, moi, là, depuis un an, savez-vous quoi? J'ai réduit ma part de vol d'avion parce que je pense que c'est injuste dans la situation dans laquelle on vit, que de continuer à brûler du carbone impunément en prenant un tas de vols internationaux.
D'accord.
Donc, ce que je veux dire, c'est que là où j'ai besoin que toi et moi et tout le monde au Québec, on s'allie, c'est que nos gouvernements, présentement, ils n'y arrivent pas. Hier, il y a une étude qui dit que le Canada est un des plus pires pays au monde en matière de réchauffement climatique, alors que le gouvernement Trudeau, depuis des années... au printemps dernier, je me souviens très bien quand la ministre de l'Environnement, McKenna, est venue faire un speech à Montréal la veille de la marche du 15 mars. Donc, on est au 14 mars, la veille que les étudiants prennent la rue. Stephen Guilbeault la présente, je crois qu'ils sont à la Maison du développement durable, et elle dit « Le Canada a un plan ». Et ce plan-là fonctionne. Elle
ça, c'est le
ça.
Plan de Justin Trudeau.
Le plan du gouvernement du Canada, de la ministre de l'Environnement. Or, ce qu'on nous dit hier, l'étude, ce qu'elle nous dit, c'est
ça,
que...
Ça, c'est très important. Écoutez bien ça, parce que aime ça penser, là, par moment, qu'on est extraordinaire, là, le Canada, mais dans le fond, on est mauditement poche.
Dans le rapport d'hier, là, qui est un rapport de plusieurs experts du monde entier, qui évalue les performances climatiques de tous les pays du G20. OK, les pays industrialisés qui sont responsables de 80-85% des émissions de gaz à effet de serre, là, Le rapport nous dit que le Canada est dans les pires dans le G20.
Per capita.
Per capita.
Per personne.
Alors
là.
Moi, ce que je dis, c'est que d'une part, tu as un gouvernement qui dit que le Canada a un plan et il fonctionne. Et d'autre part, la réalité scientifique nous dit qu'il ne marche pas ce plan-là, c'est pas vrai. Là, on a un nouveau gouvernement fraîchement élu, minoritaire.
Ouais.
On espère que Stephen Guilbeault va jouer un rôle. Il s'est posé en champion du climat depuis des années au Québec et au Canada, Stephen Guilbeault. Là, il va avoir la chance, là, il va avoir le puck sur la palette, comme on dit. Alors, moi, la question que je lui pose aujourd'hui, c'est comment? Comment est-ce qu'on va y arriver? Et pour ça, pour que Stephen puisse performer au sein du gouvernement dans lequel il a besoin de toi et moi, il a besoin que la pression exercée par la volonté populaire des signataires du pacte, notamment, puisse avoir une influence pour que dans 4 ans, dans 2 ans, on puisse se dire, OK, le Canada est rendu dans les plus meilleurs pays au monde.
OK, mais Dominique, il nous reste 2 minutes. Dis-moi concrètement ce que tu attends de Stephen Guilbeault. Et aussi, s'il ne fait pas ce que tu attends, est-ce que tu vas oser le critiquer publiquement?
Bien sûr. Moi,
vraiment? Chum, là?
Stephen Guilbeault, d'une part, je pense que c'est important que je le dise, c'est pas un ami personnel, loin de là. Je le connais depuis des années.
C'est un confrère d'armes, c'est un camarade.
C'est quelqu'un qui a eu ses bons et ses mauvais coups. Il est aussi très critiqué dans le milieu environnemental. Je ne suis pas de ceux qui ont voulu crucifier Stephen Guilbeault sur la place publique pendant la dernière campagne. Il reste qu'il y a ses preuves à faire. Pour l'instant, Stephen Guilbeault, tout ce qu'il a pu exercer comme liberté, quand il a annoncé sa candidature, c'est de dire « Je ne suis pas d'accord avec le projet du pipeline Trans Mountain ».
Oui, puis on a hâte de voir. S'il s'en va au Conseil des ministres, est-ce qu'il va maintenir sa critique?
Bon, alors, ce qu'on lui demande, il va la maintenir sa critique, mais est-ce que ça va empêcher le pipeline? Ce qu'on demande, OK? Ce que la science demande, c'est qu'on réduise de moitié, au moins de moitié, d'ici 2030, nos émissions de gaz à effet de serre. Le Canada les a augmentées ces dernières années. Alors, d'ici le prochain budget, parce que l'argent parle, hein, money talks, est-ce qu'entre aujourd'hui et le prochain budget, qui va être négocié avec les partis d'opposition qui se sont dit en faveur de la science et d'une lutte sérieuse au réchauffement climatique...
Le NPD et le Bloc, là, oui.
Oui, alors que le Parti libéral minoritaire dans lequel...
Guilbeault collabore,
là...
Oui. Peut-être même qu'il sera ministre.
Qu'ils mettent sur la table un budget crédible et sérieux d'investissement d'ici au prochain budget où on va croire que rigoureusement le Canada va atteindre ses cibles les cibles nommées par la science.
Mais t'as vu ce qui se
passe? 50% de réduction.
T'as vu ce qui se passe avec l'Alberta et la Saskatchewan, là? Ils ont pas fait élire un député libéral. Puis en Alberta, il y a un mouvement sécessionniste. Je suis pas sûr que c'est
les Albertains.
C'est pas ce qu'on a connu au Québec, mais il y a beaucoup d'Albertains qui commencent à parler ouvertement de se séparer parce qu'ils sont écœurés
de l'attitude
du fédéral par rapport à leur pétrole.
C'est que les Albertains, ils parlent clairement, ils parlent franchement. Ils disent nous autres là, on en veut du pétrole. Le pétrole, c'est notre identité, c'est toute notre économie.
Oui.
À tort ou à raison, parce qu'il mériterait d'être défié aussi là-dessus. Tu sais, on parlait des Norvégiens il y a une semaine ou deux. Mm. Les Norvégiens ont, pendant 30, 40 ans, mis de côté beaucoup d'argent relié au profit qu'ils ont fait avec le pétrole.
Ils en ont pompé du pétrole.
Aujourd'hui, qu'ils ne fassent pas pleurer les Albertains avec leurs problèmes économiques s'ils n'ont pas su partager la richesse, taxer le pétrole et s'assurer qu'il y a une autre économie qui puisse se développer en marge.
Et mettre de côté l'argent dans un fonds souverain.
Pendant que la manne passait. Ouais. Alors, ce qu'on attend des libéraux, les Albertains, certains ne les ont pas élus, les Saskatchewan non plus, un plan crédible pour 2030 et une loi qui oblige la carboneutralité au Canada, comme les Nouveaux-Zélandais viennent de le déposer cette semaine. Une loi sur la carboneutralité en ce pays.
S'ils ne le font pas, puis que Guilbeault est ministre, j'ai hâte de t'entendre, Dominique Champagne.
Est-ce que tu penses que j'ai la langue dans ma poche?
Non, tu ne l'as pas. D'ailleurs, je suis content. Non, tu ne l'as pas.
Alors,
puis ça réagit beaucoup, comme à toutes les fois où tu viens.
Moi, je défends ce qui est écrit dans le pacte. Plus il y a des Bernard Drinville qui m'appuient, qui soufflent dans ma voile, plus je peux parler en grand nombre et plus au pouvoir, ils risquent d'entendre les exigences que la science pose et qui sont au cœur du pacte pour la transition. Alors Bernard, t'as encore une chance. Il y a juste les fous qui changent pas d'idée. T'as encore une chance de relire tout ça et de faire amende honorable et de dire oui, ça vaut la peine que je mette
Dominique,
mon devoir de neutralité en réserve
Dominique,
pour m'engager résolument.
Je t'ai donné ma réponse. Je vais essayer d'être utile autrement. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, merci.
Dans un instant, Guy Ryan, un retraité inspecteur au crime majeur de la police de Montréal, il trouve que la police de Montréal, pour laquelle il a travaillé pendant toutes ces années, ne vous dit pas la vérité sur les assassinats liés au crime organisé à Montréal. Et on va aller faire un petit détour par Québec pour parler à Louis Lacroix, parce que Simon-Jolin Barrette vient de faire un point de presse.